Me voilà déjà redresseur des torts. Pour être un paladin dans les formes, il ne me manquait que d'avoir une dame. J'en eus deux. J'allais de temps en temps voir mon père à Nyon, petite ville du pays de Vaud, où il s'était établi. Mon père était fort aimé, et son fils se sentait de cette bienveillance. Pendant le peu de séjour que je faisais près de lui, c'était à qui me fêterait. Une madame de Vulson, surtout, me faisait mille caresses, et pour y mettre le comble, sa fille me prit pour son galant. On sent ce que c'est qu'un galant de 11 ans pour une fille de 22. Mais toutes ces friponnes sont si aises de mettre ainsi de petites poupées en avant pour cacher les grandes, ou pour les tenter par l'image d'un jeu qu'elles savent rendre attirant. Pour moi, qui ne voyais point entre elle et moi de disconvenance, je pris la chose au sérieux. Je me livrais de tout mon cœur, ou plutôt de toute ma tête, car je n'étais guère amoureux que par là, quoique je le fusse à la folie, et que mes transports, mes agitations, mes fureurs donnassent des scènes à pâmer de rire. Je connais deux sortes d'amour très distincts, très réels, et qui n'ont presque rien de commun, quoique très vifs l'un et l'autre, et tous deux différents de la tendre amitié. Tout le cours de ma vie s'est partagé entre ces deux amours de si diverses natures, et je les ai même éprouvés tous deux à la fois. Car par exemple, au moment dont je parle, tandis que je m'emparais de Mademoiselle de Vulson si publiquement et si tyranniquement que je ne pouvais souffrir qu'aucun homme approchât d'elle, j'avais avec une petite Mademoiselle Gothon des tête-à-tête assez courts mais assez vifs, dans lesquels elle daignait faire la maîtresse d'école, et c'était tout. Mais ce tout, qui en effet était tout pour moi, me paraissait le bonheur suprême, et sentant déjà le prix du mystère, quoique je n'en susse usé qu'en enfant, je rendais à Mademoiselle de Vulson, qui ne s'en doutait guère, le soin qu'elle prenait de m'employer à cacher d'autres amours. Mais à mon grand regret, mon secret fut découvert, ou moins bien gardé de la part de ma petite maîtresse d'école que de la mienne, car on ne tarda pas à nous séparer, et quelque temps après, de retour à Genève, j'entendis, en passant à Coutances, de petites filles me crier à demi-voix « Gothon tic-tac Rousseau !» C'était en vérité une singulière personne que cette petite demoiselle Gothon. Sans être belle, elle avait une figure difficile à oublier, et que je me rappelle encore, souvent beaucoup trop pour un vieux fou. Ses yeux surtout n'étaient pas de son âge, ni sa taille, ni son maintien. Elle avait un petit air imposant et fier, très propre à son rôle, et qui en avait occasionné la première idée entre nous. Mais ce qu'elle avait de plus bizarre était un mélange d'audace et de réserve difficile à concevoir. Elle se permettait avec moi les plus grandes privautés, sans jamais m'en permettre aucune avec elle. Elle me traitait exactement en enfant, ce qui me fait croire ou qu'elle avait déjà cessé de l'être, ou qu'au contraire elle était encore assez elle-même pour ne voir qu'un jeu dans le péril auquel elle s'exposait. J'étais tout entier, pour ainsi dire, à chacune de ces deux personnes, et si parfaitement qu'avec aucune des deux il ne m'arrivait jamais de songer à l'autre. Mais du reste, rien de semblable en ce qu'elle me faisait éprouver. J'aurais passé ma vie entière avec Mademoiselle de Vulson sans songer à la quitter. Mais en l'abordant, ma joie était tranquille et n'allait pas à l'émotion. Je l'aimais surtout en grande compagnie. Les plaisanteries, les agaceries, les jalousies même m'attachaient, m'intéressaient. Je triomphais avec orgueil de ses préférences près des grands rivaux qu'elle paraissait maltraiter. J'étais tourmentée, mais j'aimais ce tourment. Les applaudissements, les encouragements, les ris m'échauffaient, m'animaient. J'avais des emportements, des saillies, j'étais transportée d'amour dans un cercle. Tête à tête, j'aurais été contraint, froid, peut-être ennuyé. Cependant, je m'intéressais tendrement à elle. Je souffrais quand elle était malade, j'aurais donné ma santé pour rétablir la sienne, et noté que je savais très bien par expérience ce que c'était que maladie et ce que c'était que santé. Absent d'elle, j'y pensais, elle me manquait. Présent, ses caresses m'étaient douces au cœur, non au sens. J'étais impunément familier avec elle. Mon imagination ne me demandait que ce qu'elle m'accordait. Cependant, je n'aurais pu supporter de lui en voir faire autant à d'autres. Je l'aimais en frère, mais j'en étais jaloux en amant. Je lus c'était de Mademoiselle de Gothon en turc, en furieux, en tigre, si j'avais seulement imaginé qu'elle pût faire à un autre le même traitement qu'elle m'accordait, car cela même était une grâce qu'il fallait demander à genoux. J'abordais Mademoiselle de Vulson avec un plaisir très vif, mais sans trouble. Au lieu qu'en voyant seulement Mademoiselle Gothon, je ne voyais plus rien. Tous mes sens étaient bouleversés. J'étais familier avec la première sans avoir de familiarité. Au contraire, j'étais aussi tremblant qu'agité devant la seconde, même au fort des plus grandes familiarités. Je crois que si j'avais resté trop longtemps avec elle, je n'aurais pu vivre. Les palpitations m'auraient étouffé. Je craignais également de leur déplaire, mais j'étais plus complaisant pour l'une et plus obéissant pour l'autre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu fâcher Mademoiselle de Vulson, Mais si Mademoiselle Gothon m'eût ordonné de me jeter dans les flammes, je crois qu'à l'instant, j'aurais obéi. Mes amours, ou plutôt mes rendez-vous avec celle-ci, durèrent peu, très heureusement pour elle et pour moi. Quoique mes liaisons avec Mademoiselle de Vulson n'eussent pas le même danger, elles ne laissèrent pas d'avoir aussi leur catastrophe, après avoir un peu plus longtemps duré. Les fins de tout cela devaient toujours avoir l'air un peu romanesque et donner prise aux exclamations. Quoique mon commerce avec Mademoiselle de Vulson fût moins vif, il était plus attachant peut-être. Nos séparations ne se faisaient jamais sans larmes, et il est singulier dans quel vide accablant je me sentais plongé après l'avoir quittée. Je ne pouvais parler que d'elle, ni penser qu'à elle. Mes regrets étaient vrais et vifs. Mais je crois qu'au fond, ces héroïques regrets n'étaient pas tous pour elle, et que sans que je m'en aperçusse, les amusements dont elle était le centre y avaient leur bonne part. Pour tempérer les douleurs de l'absence, nous nous écrivions des lettres d'un pathétique à faire fendre les rochers. Enfin, j'eus la gloire qu'elle n'y put plus tenir et qu'elle vint me voir à Genève. Pour le coup, la tête acheva de me tourner. Je fus ivre et fou les 2 jours qu'elle y resta. Quand elle partit, je voulais me jeter dans l'eau après elle, et je fis longtemps retentir l'air de mes cris. 8 jours après, elle m'envoya des bonbons et des gants, ce qui me parut fort galant si je n'eusse appris en même temps qu'elle était mariée et que ce voyage, dont il lui avait plu de me faire honneur, était pour acheter ses habits de noces. Je ne décrirai pas ma fureur, elle se conçoit. Je jurai dans mon noble courroux de ne plus revoir la perfide, n'imaginant pas pour elle de plus terrible punition. Elle n'en mourut pas cependant, car 20 ans après, étant allée voir mon père et me promenant avec lui sur le lac, je demandai qui étaient des dames que je voyais dans un bateau peu loin du nôtre. « Comment ?» me dit mon père en souriant. « Le cœur ne te le dit-il pas ? Ce sont tes anciennes amours. C'est Madame Christin, c'est Mademoiselle de Vulson. » Je tressaillis à ce nom presque oublié, mais je dis au batelier de changer de route, ne jugeant pas, quoique j'eusse assez beau jeu pour prendre ma revanche, que ce fut la peine d'être parjure et de renouveler une querelle de 20 ans avec une femme de 40.